Anne-Claude Crémieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, vous êtes membre de l'Académie de médecine, professeure en maladies infectieuses, vous avez été conseillère au ministère de la Santé entre 2003 et 2005, ce qui vous en aviez tiré un livre d'ailleurs en 2009, Gouverner l'imprévisible. Au plus fort de la crise du Covid, vous avez fait partie des médecins vers qui les médias se sont le plus volontiers tournés pour poser leurs questions et vous en avez tiré un autre livre, Les citoyens ont le droit de savoir, qui vient de paraître aux éditions Fayard, au moment même où c'est à une triple épidémie que les hôpitaux français risquent d'être confrontés. Je l'ai dit, hein, le Covid-19, dont les nouveaux cas ont augmenté de 40% en une semaine, l'épidémie de bronchiolite, le taux d'actes médicaux chez les enfants de moins de 2 ans a quasiment doublé en 6 semaines. Et puis il y a l'épidémie de grippe saisonnière qui vient d'être déclarée. Elle est en avance cette année. Alors est-ce que l'hôpital va pouvoir tenir? Tous les lits ne risquent-ils pas d'être monopolisés par ces trois maladies au détriment de tous les autres maux?
Alors, c'est effectivement une vraie question qui en cache plusieurs. La première, c'est quelle va être l'intensité de ces épidémies. En ce qui concerne l'épidémie de Covid, on a encore des incertitudes. On a une population qui vit depuis un an avec une circulation de variants Omicron. Je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on reste dans cette lignée Omicron. Donc, la population garde un certain niveau d'immunité croisée. Mais néanmoins, comme vous le savez, l'immunité baisse avec le temps et les rappels sont importants. Aujourd'hui, la population se bouscule pas, et en particulier la population à risque, pour faire ces rappels qui permettraient pourtant de récupérer une immunité optimale pour éviter d'être hospitalisé. Donc, quelle va être l'intensité de cette vague Omicron? On ne le sait pas et on a les yeux effectivement rivés sur les patients hospitalisés pour le Covid. Pareil pour la grippe, difficile de prévoir, vous l'avez dit, ça commence. Est-ce qu'il va y avoir entre Omicron et la grippe des interactions nuisibles? Et en particulier, il y a un article qui a dit que il pouvait y avoir des co-infections qui seraient plus sévères. Donc là aussi, nous n'avons pas de certitude. On attend de voir, parce que l'année dernière et l'année d'avant, nous n'avons pas connu d'épidémie de grippe pendant les épisodes de vagues de Covid. Et donc, on ne sait pas très bien. Et effectivement, on va voir ce qui va se passer. Et enfin, l'épidémie de bronchiolite, elle continue à augmenter. Elle touche un public assez différent, qui sont les enfants, et c'est déjà la réanimation infantile qui crie au secours. Dans ces difficultés de l'hôpital, il y a à la fois les épidémies, vous l'avez dit, qui arrivent, et probablement dans une population qui a été moins immunisée, parce que les mesures barrières de l'année dernière ont freiné la grippe, et aussi si on freinait la bronchiolite, mais il y a aussi la dégradation des services de soins que l'on connaît, dégradation qui est ancienne mais qui s'est très clairement accentuée ces dernières années, avec un découragement du personnel soignant qui pèse beaucoup et qui va peser dans la façon dont on va pouvoir faire face à une épidémie, à ces épidémies si elles s'avèrent intenses.
Anne-Claude Crémieux, pourquoi est-ce que nous sommes plus vulnérables aux épidémies aujourd'hui qu'hier?
Alors, on est plus vulnérables. Il y a, je dirais, deux raisons que je développe dans mon livre. La première, elle a été démasquée par l'épidémie de SRAS en 2003. C'est la rapidité et l'intensité de la circulation des virus par voie aérienne. Ça a été assez extraordinaire. En 2003, on a découvert que le SRAS était capable de voyager en 3 jours aux 4 coins du monde. C'était la première fois. On n'avait jamais vu ça. Évidemment, ça s'est reproduit avec le coronavirus. En 2020, vous avez vu la rapidité avec laquelle cette épidémie localisée en Chine s'est répandue dans l'ensemble du monde. Première vulnérabilité. Deuxième vulnérabilité qui a été vraiment dévoilée cette fois-ci par le coronavirus en 2020, la population est plus fragile, en partie à cause du vieillissement, qui est un phénomène qui est là aussi général, qui est touche les pays occidentaux, mais pas seulement. La Chine a affaire à une population de plus en plus âgée avec des comorbidités.
En fait, c'est les progrès de la santé. Ça.
Absolument.
On vit plus vieux, on peut vivre avec des comorbidités, on serait mort il y a 30 ans, et donc on est plus fragile, plus vulnérable aux
épidémies. C'est exactement ça. En fait, les progrès de la médecine créent en même temps notre vulnérabilité aux maladies infectieuses, que ça soit ces virus respiratoires, ou d'ailleurs la résistance aux antibiotiques, qui est un autre phénomène qui s'est aggravé avec le vieillissement de la population, avec sa susceptibilité aux infections.
D'où la Chine qui est devenue le point névralgique de la diffusion des épidémies, d'après ce que vous dites, hein, avec sa forte densité de population, mais aussi grâce aux progrès que la Chine a pu faire au cours de ces 30 dernières années. Alors, qui fait qu'en Chine, aujourd'hui, on a aussi des obèses.
Alors, c'est vrai que... c'est pas tant les obèses en Chine que le vieillissement de la population et les comorbidités, diabète, hypertension, problèmes cardiovasculaires. Ils n'ont pas tellement d'obèses, c'est la raison pour laquelle, au fond, il a fallu que la pandémie touche les pays occidentaux pour qu'on comprenne que des jeunes obèses se retrouvaient en réanimation. Donc, pourquoi la Chine ? Parce que il y a comment naissent ces pandémies ? Ce sont des zoonoses qui viennent des animaux et ça suppose une interaction entre des virus du monde animal et l'homme, souvent par l'intermédiaire d'ailleurs d'animaux domestiques. Donc c'est la forte densité de la population au contact des animaux sauvages et domestiques. Et c'est pour ça que les marchés chinois sont à risque, parce que c'est souvent la coexistence d'animaux sauvages vendus en contrebande, d'animaux domestiques et aussi d'une énorme densité de population.
On fait une pause, on se retrouve tout de suite après, Anne-Claude Crémieux.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On a pu constater pendant la pandémie de Covid, et elle n'est pas finie, que les progrès scientifiques et technologiques que nous avons accomplis permettent des réponses d'une ampleur inédite. Hein. On peut confiner tout un pays, c'était impossible, ça aurait été impossible il y a 20 ans.
Le confinement de tout un pays, c'est que, en fait, ça, c'est la première fois qu'on confine non seulement tout un pays, mais enfin pratiquement une planète. Et ça, ça n'avait jamais été envisagé dans les plans de réponse, souvent minutieusement préparés pour faire face à une pandémie grippale.
Il fallait les instruments informatiques pour ça. Il fallait le numérique, il fallait Internet, il fallait tout ça.
Alors, pas tant pour le confinement, mais je dirais pour la réponse extraordinaire et la rapidité de la réponse scientifique qu'on a opposée à cette pandémie. D'abord, rapidité d'isolement du virus. En quelques jours, il a été séquencé. Et on le voit même avec les variants, c'est extraordinaire. Un variant fait son apparition dans un coin du monde et en quelques jours, il est identifié. Et en quelques semaines, on sait si oui ou non, il va répondre au vaccin. Ce qui explique que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est capable de décortiquer l'histoire d'une pandémie. Et cette histoire d'une pandémie, ces raisons, les raisons pour lesquelles il y a des vagues, eh bien, on s'est aperçu qu'en réalité, un virus pandémique comme le coronavirus était capable de très rapidement muter à une vitesse que jamais les scientifiques n'avaient imaginé.
C'est vrai que c'est la première fois qu'on a pu le surveiller en temps réel, comme on l'a fait grâce, vous l'avez dit évidemment, au séquençage, à la vitesse à laquelle on a pu faire un vaccin grâce à l'ARN messager, la vitesse à laquelle on a pu équiper nos smartphones de QR code pour vérifier qu'on était bien vacciné. Tout ça, c'est issu de la révolution numérique. Et on a l'impression, on se dit, mais que se serait-il passé si le Covid-19 était arrivé, non pas en 2019, mais en 1989 ? Peut-être qu'on ne l'aurait même pas vu. Il aurait fait des morts. Mais en tout cas, on n'aurait jamais mobilisé la planète comme on l'a fait là.
Alors vous avez raison, le progrès technologique est aussi une loupe qui permet d'identifier les menaces et probablement de nous les faire voir et de façon extrêmement précise. Du coup, ça a abaissé notre seuil de réactivité aux épidémies et aux crises sanitaires d'une façon générale, parce qu'on voit mieux le danger. L'exemple que tout le monde prend, c'est les précédentes pandémies, notamment la pandémie de Hong Kong, où finalement, ce n'est que rétrospectivement qu'on a pu s'apercevoir qu'elle avait entraîné un grand nombre de morts. Quand on ne compte pas les morts, il n'y a pas de crise sanitaire.
C'était la grippe de Hong Kong en 68-69. Hein, et effectivement, on a compté les morts, je crois que c'est Antoine Flahault, le premier qui les a comptés d'ailleurs, mais 20 ans plus tard, il en a trouvé 2 millions.
Un autre exemple qui est très intéressant, c'est la canicule. En France, très vite, ça a entraîné une crise sanitaire, parce que très vite, les services des urgences et aussi des pompes funèbres ont dit « attention, on a à faire face à un nombre de morts tout à fait inhabituel et on a compté les morts », alors qu'en dehors des pays adjacents, l'Italie, l'Angleterre même, on n'a pas compté les morts, il n'y a pas eu de crise sanitaire.
Mais alors Anne-Claude Crémieux, quand on lit votre livre, tout à coup, en le lisant, je me suis posé une question. Puisqu'on est devenu plus vulnérable aux épidémies et qu'a priori elles vont se multiplier, parce que quand on lit votre livre, on voit bien qu'elles vont se multiplier, elles vont donc bouleverser de plus en plus nos vies quotidiennes, ce qui n'était pas le cas autrefois de la grippe de Hong Kong ou même de la grippe espagnole, puisqu'on ne comptait pas les morts. On savait à peine ce qui se passait. Donc on va s'y préparer de mieux en mieux et comme on a sous-estimé la gravité du Covid-19, on va avoir tendance à surréagir pour ne plus être pris en défaut. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des masques obligatoires, y compris dehors dans la rue, tous les ans ?
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'histoire des crises, lorsqu'on étudie l'histoire des crises sanitaires, on s'aperçoit que la réaction à une crise est souvent déterminée par la crise d'avant. Alors c'est exactement ce qui s'est passé par exemple en France, où on a eu la canicule, et après la canicule, les ministres qui étaient de la Santé et le gouvernement qui étaient quand même bouleversés par le fait de s'être fait surprendre la canicule qui a tué en 3 jours 15 000 personnes, se sont préparés plus que les autres pays à une pandémie grippale. Comme vous le savez, il y a eu une pandémie qui était la pandémie donc H1N1 qui s'est avérée beaucoup moins grave que prévu, et on a critiqué la préparation de la France. Et résultat, face au coronavirus en 2020, nous n'avions plus cette préparation, nous n'avions plus de masques, et finalement nos gouvernants n'étaient plus du tout préparés à gérer une crise sanitaire. Donc on voit bien que c'est une suite de surréactions et de sous-réactions, mais la morale de l'histoire, et elle est vraiment fondamentale pour tous les gouvernants, c'est qu'il vaut mieux surréagir que sous-réagir. Et comme on le sait, il vaut mieux réagir plus, de façon plus large face à un danger qui est forcément inconnu et donc incalculable, et après restreindre les mesures dès qu'on a plus de visibilité. Mais la crise, c'est avant tout le brouillard, et au début, effectivement, on réagit parfois de façon plus importante, ce qui entraîne beaucoup moins de morts que de sous-réagir. C'est aussi une leçon de cette crise.
Donc, il faut absolument investir dans les hôpitaux aujourd'hui.
C'est une des leçons. On s'est aperçu que finalement, le fait de ne pas avoir suffisamment de lits de réanimation, qui était le véritable goulot d'étranglement de la prise en charge des patients sévères, s'est traduit en nombre de morts. Et qu'on n'avait pas du tout anticipé le fait de pouvoir démultiplier d'avoir des réserves, en fait, à la fois en personnel de réanimation et en équipement. Et c'est quelque chose qui a été probablement plus pensé par les militaires que par les services de santé. On l'a vu, d'ailleurs, les militaires sont venus à la rescousse des civils. Et il faut certainement intégrer cette leçon dans la préparation des crises sanitaires. Ce n'est pas la seule. On a vu qu'on manquait aussi, on peut dire, de bataillons, puisque c'est le terme qui a été utilisé, pour faire du testé, tracé, isolé, c'est-à-dire essayer d'arrêter l'épidémie en attendant le vaccin.
Merci.
Merci à vous.
Merci Anne-Claude Crémieux. Je renvoie à la lecture de votre livre, Les citoyens ont le droit de savoir. Ça vient de paraître aux éditions Fayard. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Caroline Pigozzi. Elle va nous emmener au Vatican.